France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission présentée, préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Guirec Corbin. C'est le dernier des 7 épisodes de notre série sur les villes qui s'opposent aux États après New York, Istanbul et Bologne. On a évoqué cette semaine Budapest, Hong Kong, Buenos Aires. Aujourd'hui, le Cap, en Afrique du Sud, laboratoire de l'opposition à l'ANC, puisque c'est l'Alliance démocratique, la DA, qui gouverne la ville et sa province depuis la fin de l'apartheid.
Bien sûr que je suis électeur DA, j'ai pas peur de le dire. Regardez notre quartier, c'est propre, c'est ce qui fait la marque de la DA, mais pas seulement. Pas de problème, pas d'ennui, c'est le principal.
On prend rien pour acquis. C'est ce qui fait la différence avec nous. On apprécie chaque vote, car chaque vote peut faire la différence entre notre victoire et notre défaite. Alors on doit considérer chaque électeur avec sérieux, au contraire de l'ANC qui ne s'intéresse pas aux gens.
Quand ils prétendent que la province est bien gérée, on leur rétorque qu'elle l'est pour une petite élite. Elle ne fonctionne pas bien pour la majorité. Bien qu'il y ait des pauvres et des riches partout dans ce pays, ici il y a presque une volonté délibérée de ne pas atteindre l'égalité dans l'accès aux services de base.
De la ville du Cap, il y a le côté carte postale, sa baie devant les montagnes, ses vignobles, ses parcs, les cafés de Long Street, les petites maisons colorées du quartier Beau Cap, un centre-ville bien entretenu et son titre de meilleur endroit à visiter au monde qui lui fut décerné il y a quelques années par le New York Times et le Daily Telegraph et dont les commerces et lieux touristiques se prévalent encore. Il faut au moins prendre le téléphérique pour saisir de l'autre côté des montagnes une autre réalité, la ségrégation urbaine qui subsiste bien après l'apartheid, avec des quartiers de luxe comme Sea Point ou Camps Bay protégés par des grilles, et au loin les townships où vivent des millions de Captoniens qui subissent ce qu'on appelle la loi des 40. Ils font 40 km pour travailler, ils vivent dans des logements de 40 mètres carrés et consacrent 40% de leur salaire à leur logement. C'est sur le balcon de l'hôtel de ville du Cap le 11 février 1990 que Nelson Mandela fit son premier discours d'homme libre. Mais depuis la fin de l'apartheid, la ville a toujours été dirigée par le parti d'opposition à Mandela et l'ANC. Ce parti d'opposition, c'est la DA pour Alliance démocratique, parti de centre-droit pour le dire vite et qui a fait du Cap sa vitrine ou son laboratoire à mesure que l'ANC, le Congrès national africain, s'enlisait dans les scandales de corruption. L'Alliance démocratique conserve aujourd'hui l'image d'un parti de blanc, même si cela reste à nuancer, tout comme la ville du Cap n'est dans les faits absolument pas aussi blanche qu'on le croit. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les populations noires et métisses qui sont majoritairement exclus d'un centre-ville devenu hors de prix. Alors en quoi la ville du Cap serait un modèle dont l'Alliance démocratique pourrait s'honorer? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Julien Migosi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université de Cambridge. Vos recherches portent sur la ville du Cap depuis une quinzaine d'années. Et vous êtes dans Culture Monde ce matin avec Chloé Buir. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire LAM, les Afriques dans le monde, chercheuse associée à l'Institut français d'Afrique du Sud, l'IFAS. Vous avez écrit « Citadins citoyens au Cap, justice et espace après l'apartheid » paru aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Alors tous les deux, vous nous avez alertés quand on a préparé cette émission sur l'absurdité qu'il y aurait à vouloir comparer les villes sud-africaines entre elles. Le Cap, Johannesburg, Pretoria, ce ne sont pas les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes trajectoires politiques et ce ne sont pas les mêmes trajectoires urbaines. Alors pour faire commencer cette histoire à la fin de l'apartheid, Chloé Buir, comment expliquer que le parti de Nelson Mandela échoue au Cap, dans le sens où il n'obtient pas la majorité des suffrages au Cap en 94 lors des élections générales? Il n'y a pas de municipal à ce moment-là, mais lors des élections générales, ce n'est pas au Cap que Nelson Mandela obtient la majorité de ses voix. Pourquoi ?
Alors, c'est une question qui continue à se poser aujourd'hui. Pourquoi on vote pour un parti ou un autre? Et il y a toujours un peu l'explication dominante en Afrique du Sud, qu'on voterait pour un parti en fonction de son groupe racial. Donc, il faut comprendre qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas que des blancs et des noirs. Officiellement, il y a 4 catégories raciales. Il y a les blancs, les noirs africains, les Indiens et autres groupes. Et puis, il y a cette catégorie au milieu qu'on appelle les colorés, les colored, qui, officiellement, sous l'apartheid, ont été définis comme ceux qui n'étaient ni blancs ni noirs.
Donc,
alors, c'est des métis, mais c'est aussi des groupes qui viennent notamment des descendants des esclaves qui avaient été importés en Afrique du Sud, donc qui n'ont pas forcément d'origine autochtone, on pourrait dire, ou indigène en Afrique du Sud. Donc, c'est un groupe très, très mixte et qui est... pas dominant, mais qui est le plus gros groupe démographiquement au Cap. Et donc, ces personnes colorées, moi j'aime les appeler colorées parce que ça rappelle un peu l'absurdité de la façon dont on présente les gens, ils se sont toujours considérés sous l'apartheid comme le jambon du sandwich. Il y avait les blancs en haut, les Africains en bas, et puis eux, ils étaient au milieu. Et toute la géographie du Cap est organisée de façon à ce que les quartiers qui étaient réservés à cette population fassent tampon entre les quartiers réservés aux Noirs et les quartiers réservés aux Blancs. Et donc, quand l'ANC arrive au pouvoir en 1994, tout le monde sait qu'ils vont gagner les élections, Nelson Mandela a été libéré, etc. Mais eux se disent, donc les Noirs vont passer devant, les Blancs de toute façon dominent, et nous, on va se retrouver en bas, on va encore plus souffrir. Donc c'est vraiment un vote qui est un vote de peur d'être mis de côté par l'ANC, et c'est ça qui va expliquer en grande partie l'absence de majorité acquise par l'ANC lors de ces élections-là, sur ce territoire en particulier.
Un territoire qui n'est pas exactement le Cap tel qu'on l'entend aujourd'hui. La ville du Cap a été créée, enfin l'espace métropolitain tel qu'il existe aujourd'hui a été créé un peu plus tard, en 2000. Julien Migozzi, 30 ans après ces élections de 94, est-ce que la ville du Cap est une ville qu'on peut qualifier de blanche ou à majorité blanche ?
Ah ben, ce serait une erreur de la qualifier comme telle.
Mais certains le font politiquement.
Mais certains le font politiquement. Alors, ce serait une erreur d'abord juste en termes de réalité sociale, parce que le Cap, vous l'avez dit, c'est une ville de 5 millions d'habitants, où les Blancs, finalement, ne représentent que 15 à 20% de la population. Donc ça, c'est une réalité humaine. Après, dans les représentations sociales, dans les représentations politiques, en particulier véhiculé par les imaginaires touristiques, on a ce discours qui serait que le Cap continue à être une ville de blancs, mais qui s'explique tout simplement par peut-être le manque de curiosité des touristes pour ouvrir leur regard au reste de la métropole. Les quartiers touristiques, si beaux qu'ils soient, en fait concentrent les populations qui viennent passer un court séjour. Et en fait, c'est une petite grappe de quartiers à l'échelle d'une vaste municipalité. Et c'est vrai que dans ces quartiers, les populations blanches sont surreprésentées. Donc, j'essaie souvent de dire cette comparaison, c'est comme si vous vous rendez à Paris, dans 2-3 arrondissements, et que vous en tireriez une conclusion sur la représentation socio-économique de la ville de Paris sans vous ouvrir au reste de la métropole parisienne. C'est exactement la même chose qui se passe au Cap. On a des discours, en fait, qui perpétuent une représentation très partielle d'une ville qui est tout à fait métisse, mais extrêmement ségrégée sur le plan résidentiel.
Une ville où la population noire est majoritaire, si on prend le grand cap, pour reprendre l'expression du Buenos Aires, du grand Buenos Aires, si on prend vraiment la métropole, 45% de la population est noire, 15% de blancs, mais en effet, il y a des imaginaires tenaces, ces imaginaires notamment des touristes qui charrient beaucoup de fantasmes, et que cette coordinatrice nationale pour l'Alliance contre les inégalités s'évertue à démonter.
Donc, voici le Cap, avec tous ses contrastes. Ici, on a les plus riches, aisés, et des étrangers qui possèdent toutes ces terres. On a une belle vue sur la baie et le port, et derrière, de magnifiques demeures qui nous sautent aux yeux. Puis, si on regarde beaucoup plus au loin, ce sont les Cape Flats. Beaucoup de gens ont été jetés là-bas après avoir été expulsés. Car, comme le régime de l'apartheid s'est installé, les personnes de couleur ont été déplacées du centre-ville et jetées dans ces Cape Flats. Donc, si on regarde cette péninsule dans son ensemble, d'abord, la vue qui nous accueille est plutôt sympa. Mais si le regard porte plus loin, on voit la pauvreté et tout le reste qui est moins sympa.
Wafa Abdourahmane, rencontrée par Claire Bargelès pour RFI pour un grand reportage, Le Cap aux prises avec ces inégalités. Cette coordinatrice nationale pour l'Alliance contre les inégalités l'a décrit très bien, cette ville à deux vitesses qui donne l'impression que la fin de l'apartheid n'a pas sonné, la fin de la ségrégation urbaine. Voilà pour la description, pour l'explication, Chloé Buir, comment comprendre que 20 ans, plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, subsiste cette ségrégation urbaine social au Cap.
C'est une grande question et je compte sur Julien pour compléter. Mais je crois qu'il faut d'abord, il y a une inertie des structures spatiales, c'est-à-dire qu'on peut pas passer un bulldozer sur toute la ville et reconstruire un autre modèle urbain. On hérite des structures urbaines et le Cap, c'est une ville ancienne qui a commencé avec l'arrivée vraiment des premiers commerçants hollandais et portugais au XVIIe siècle. Par comparaison, Johannesburg, c'est une ville qui se développe au XIXe siècle autour des mines d'or. Donc voilà, déjà il y a quand même une longue histoire urbaine et donc une superposition de logiques urbaines qui toutes sont allées en faveur d'une concentration des richesses dans le centre-ville, autour du port, parce que c'est une ville-port, on parle du Cap de Bonne-Espérance, c'est quand même la clé de la mondialisation, c'est là que s'arrêtent tous les bateaux qui veulent faire le tour du monde jusqu'à l'ouverture du canal de Suez. Et donc, on est face à une ville qui a vraiment... qui s'est construite autour de ce modèle. En 1948, c'est le début de l'apartheid, mais c'est pas le début de la ségrégation. Il y a déjà des quartiers ségrégés, il y avait déjà eu des lois spéciales qui avaient séparé les groupes en fonction notamment de leurs revenus. Donc il y a une logique qui est une logique urbaine, qui est une logique aussi fonctionnelle, avec des espaces, donc il y a le centre-ville, il y a le port qui est très important et qui va déterminer et faire une grosse fracture urbaine en fait. Toutes les installations portuaires et industrielles vont faire une première ceinture qui vont isoler ce centre-ville du reste du territoire. Et puis il y a cette géographie et cette topographie très particulière, puisque le centre-ville qu'on appelle le bol urbain, le city bowl, il est au pied de cette montagne très impressionnante qui est une coupure radicale et qui, à l'inverse, par exemple, des villes brésiliennes où les favelas se sont installées justement à flanc de collines, on peut penser à Rio, les deux villes sont souvent comparées, au Cap, cette montagne est une réserve naturelle, personne ne s'y installe. Donc voilà, il y a une succession de facteurs qui sont à la fois historiques, qui sont géographiques et qui sont liés à un certain type de développement économique et de modèle d'activité qui sur laquelle s'est spécialisée la ville. Le tourisme arrive en fin de parcours, je dirais, de cette trajectoire urbaine.
Donc avant d'évoquer ces Airbnb qui ont fait beaucoup de mal néanmoins à la ville du Cap, comme dans de très très nombreuses autres villes partout dans le monde, Julien Bigozzi, Chloé Buir, comptait sur vous pour compléter, je reprends ces mots. On a donc d'un côté cette ségrégation urbaine, c'est d'un côté des quartiers centraux touristiques dominés par la classe moyenne et les plus aisés quand ce ne sont pas les touristes, et de l'autre, ces vastes townships. Peut-être préciser tout de suite, Julien Migosi, que township, ça ne veut pas dire bidonville.
Non, effectivement, il y a plusieurs réalités urbaines. Vous avez des townships qui sont des quartiers qui ont été créés par l'apartheid, et puis après des zones de logement informel qu'on peut qualifier de bidonville ou de slums, qui sont en général juxtaposées, voire insérées aussi dans les townships. Mais voilà, pour revenir à ce que disait Chloé, effectivement, ces inégalités du Cap, elles sont héritées du temps long, de la fabrique des villes, de la fabrique urbaine, et puis aussi du simple fait que, pendant plus d'un siècle, en fait, c'est l'État, c'est l'autorité de l'État qui a organisé la ségrégation résidentielle, qui décidait selon votre couleur de peau où est-ce que vous aviez le droit de vivre, de louer, d'acheter un bien. Et le passage à la démocratie en 1994, en fait, a fait chuter cet encadrement raciste de la mobilité résidentielle et l'a remplacé en fait par la loi du marché. Donc aujourd'hui, selon vos revenus, vous êtes libre d'habiter où vous le souhaitez, au Cap ou à Johannesburg ou dans n'importe quelle ville sud-africaine. Seulement, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais ce qui s'est passé aussi en France, qu'on observe dans le monde entier, c'est qu'il y a eu un décrochage entre les salaires et les prix du logement. Les logements sont de plus en plus chers et l'Afrique du Sud s'est enfoncée dans une croissance économique en berne, dans une stagnation. Donc les salaires n'ont pas suivi. Ce qui explique le maintien de cette très forte ségrégation, les gens n'ont simplement pas les moyens de déménager vers les plus beaux quartiers et donc de construire une mixité résidentielle qui serait en porte-à-faux vis-à-vis de la ville qui a été construite par l'apartheid. Ce qui explique aussi, pour en revenir à l'intervention que vous aviez juste avant, que le Cap aussi garde cette image de ville de blanc, parce qu'il y aurait l'impression que cette inertie résidentielle montrerait que finalement rien n'a changé. Et c'est vrai qu'en termes d'inertie spatiale, peu de choses ont changé si on regarde le Cap du haut. À l'échelle des rues, à l'échelle des quartiers, évidemment, tout ça est un peu plus différent, un peu plus complexe. Mais cette idée d'un système qui perdure, elle est très forte. Et et là aussi se joue cette image de ville de blanc, parce que cette ville du Cap, dans son inertie, a été aussi le laboratoire politique du principal parti d'opposition. Parti d'opposition qui rassemble les principales figures politiques issues des populations blanches. Donc on a à la fois une inertie spatiale très forte, une ségrégation qui se maintient, et une ville qui devient le laboratoire, la plateforme de visibilité du premier parti d'opposition où les blancs sont surreprésentés.
Et qui se pose comme un contre-modèle en la matière à l'ANC, qui ne cesse de dire que c'est quasiment le slogan de la ville, que c'est la ville la mieux gouvernée d'Afrique du Sud. Une ville où pourtant le centre-ville est devenu inabordable, car elle mise à la fois cette ville du Cap sur les familles les plus aisées, qui pour certaines d'ailleurs viennent de Johannesburg et s'installent là pour bénéficier du cadre de vie, sur le tourisme, on le verra. Et puis depuis l'année dernière aussi sur ce qu'on appelle les travailleurs nomades, des étrangers occidentaux principalement, qui travaillent dans le numérique. Alors pourquoi pas au Cap ?
C'est très agréable parce qu'il n'y a pas de décalage horaire. Seulement en hiver ici, il y a une heure de différence, ce qui est agréable car vous avez une heure supplémentaire le matin. Les gens adorent aller faire du surf ou de la randonnée avant de commencer à travailler. Même s'ils ne payent pas de taxes dans notre pays, leur famille vient ici pour visiter. Ils dépensent la même somme d'argent qu'ils dépenseraient pour l'hébergement chez eux, qu'ils dépensent pour la nourriture, etc. Nous bénéficierons donc de l'impact du revenu dont ils dispose.
Extrait d'un reportage de France 24 avec une Hollandaise, Émilie, qui s'occupe du marketing d'une société hollandaise, et puis une représentante du gouvernement du Cap occidental qui, elle, estime que c'est une chance pour le Cap que d'accueillir ces travailleurs nomades. Julien Migosi, en l'occurrence, il y a la loi du marché dont vous nous parliez tout à l'heure qui a pris le dessus après la fin de l'apartheid, mais il y a aussi là des mesures que la municipalité a prises, a mises en place pour faciliter ce télétravail en bord de plage.
Ça a été une stratégie de la ville du Cap, notamment validée, précipitée avec l'organisation de la Coupe du Monde en 2010 à l'ensemble du pays, mais qui a un peu plus assis la ville du Cap sur son image de carte postale qui l'a confortée. Donc ça a été une stratégie du Cap en fait de s'insérer dans les réseaux touristiques mondialisés comme destination privilégiée. Et dans la période du Covid, on a vu dans le monde entier cette généralisation du télétravail, en particulier autour de populations plus jeunes, plus mobiles. Et le Cap, à la fois la municipalité, mais aussi la province du Cap, en fait, voit dans ce flux de travailleurs plutôt privilégiés en télétravail, une potentielle manne financière. Et donc, elle a utilisé ce phénomène touristique, notamment pour faire pression auprès du gouvernement sud-africain, afin d'introduire un visa spécialisé pour ces télétravailleurs qui vient justement de rentrer en vigueur il y a un peu moins d'un an. Donc, c'est une stratégie politique, c'est une stratégie économique de la ville du Cap, mais qui commence un petit peu à se retourner contre eux. Parce que cet afflux de tourisme, alors on part à peu près, vous voyez, d'un demi-million de touristes pendant la période estivale, donc c'est un flux très important. Cette manne touristique, elle est essentiellement captée par une offre Airbnb, une offre de restauration. Et en fait, les espoirs que les flux de devises se transformeraient et bénéficieraient à l'ensemble de la société du Cap, en fait, c'est une belle chimère. Et ça se traduit au contraire par un envol des prix immobiliers, ce qui crée de l'amertume, y compris au sein des populations sud-africaines les plus privilégiées au Cap, qui en fait ne sont plus capables de se loger dans les quartiers privilégiés où ils ont été eux-mêmes habitants pendant des années. Donc c'est un peu à double tranchant cette politique du digital nomads pour la ville du Cap.
Donc il y a deux aspects dans votre réponse, à la fois les digital nomads, les travailleurs nomades qui sont encouragés, qui peuvent maintenant rester au Cap pendant 2 ans sans demander un visa touristique ou demander la résidence. C'est ce visa spécial qui a été négocié auprès de l'État sud-africain. Donc il reste à savoir pourquoi l'État sud-africain a accepté que le Cap mette en place ce visa spécial que les autres villes n'ont pas du tout à leur disposition et qui permet aujourd'hui seulement à ceux qui ont quand même un revenu de plus de 50 000 dollars de rester travailler au Cap pendant 2 ans. Mais il y a aussi la question du tourisme et on sait aujourd'hui que certains quartiers du Cap ont perdu plus d'un quart de leur logement au profit de locations courte durée comme Airbnb. Chloé Buir, qu'est-ce qui relève là d'un impensé de la municipalité, le Cap qui n'aurait pas pensé que ces mesures allaient rendre le centre-ville inabordable? Et qu'est-ce qui relève au contraire de peut-être d'une stratégie?
Oh, ça c'est une question, c'est difficile d'y répondre parce que je pense que ça dépend vraiment des acteurs. Il faut quand même prendre aussi en compte que ces réformes, on est encore dans une phase assez expérimentale autour de ce visa. Il y a notamment quand même une question de la taxation qui se pose. Enfin, l'exemption de taxes, elle n'est pas aussi automatique, mais encore faut-il avoir une administration qui suit derrière. Il faut avoir, la capacité bureaucratique à gérer l'émission de ces visas, le suivi, etc. Donc, ça, c'est encore en train de se mettre en place. Je pense qu'une partie de cette stratégie, ça vient aussi répondre à une vraie angoisse qui est le post-Covid. L'Afrique du Sud, en règle générale, et le Cap en particulier, ont beaucoup bénéficié du tourisme, mais cette manne touristique, elle n'est pas revenue au niveau d'avant le Covid. Donc, je crois qu'il y a une vraie recherche, avant de transformer le modèle, déjà de revenir et d'essayer de récupérer cette économie. Tout ça dans un contexte où l'économie au niveau national est en berne et avec des vraies difficultés. Au Cap, ça revient régulièrement, mais il y a une crise autour de l'eau, de l'approvisionnement en eau, y compris dans les beaux quartiers. Quand les réservoirs sont vides, ils sont vides pour tout le monde. Il y a évidemment des gros problèmes d'électricité suite à la faillite de la compagnie nationale d'électricité, mais on peut en dire autant des compagnies ferroviaires, de la compagnie aérienne nationale. Donc ces stratégies locales, elles viennent aussi essayer de mettre des pansements sur des fractures qui, elles, relèvent aussi du niveau national. Et je pense que c'est quand même important de comprendre qu'il y a effectivement une vraie autonomie du Cap, mais un système, un État sud-africain très élaboré, complexe, à 3 niveaux, le niveau national, le niveau provincial et le niveau municipal, et que chacun de ces niveaux a aussi une capacité d'intervention et des prérogatives qui peuvent rentrer en conflit les unes avec les autres. Donc je pense que c'est difficile de dire, c'est complètement délibéré et cynique de la part des autorités du Cap. Il y a aussi cette une vraie croyance libérale de se dire ça va trickle down, on va récupérer, on l'a bien entendu dans votre reportage, cette affirmation, elle est idéologique et je pense que c'est difficile de remettre en cause aussi ce modèle-là dans ce contexte où quelles seraient les autres alternatives, comment réinventer autre chose. Pour l'instant, on a l'impression qu'il est difficile pour le Cap de se réinventer sur une autre politique que ce virage libéral et très orienté sur cette économie créative. Donc la ville a été la capitale mondiale du design en 2014. Il y a le plus grand musée d'art contemporain africain qui a ouvert en 2017. Donc voilà, il y a des énormes investissements qui sont faits autour de cette image de la ville. Julien en parlait. Je crois que ce marketing urbain, il est à comprendre aussi à l'échelle de la planète. C'est une compétition entre les villes mondiales. Et le Cap veut tirer son épingle du jeu et pour l'instant n'a pas changé en tout cas de vision.
Alors que pendant ce temps, les habitants, notamment et en particulier des townships, se battent contre les coupures de courant quotidiennes.
On n'a pas vraiment l'électricité en fait, ce sont des connexions illégales. On fait des branchements avec des câbles et tout ça c'est un peu inquiétant pour les enfants. On n'a pas de représentants, on ne sait pas vraiment quoi faire. Il y a des abris qui ont dû être démolis à cause de toute cette eau là et des inondations. On ne sait pas trop auprès de qui se plaindre et qui pourrait être de notre côté car on n'a personne pour nous représenter et on n'a plus de réunions comme on en avait avant.
Alors la crise énergétique affecte en réalité toute l'Afrique du Sud et Chloé Buhr le rappelait, c'est en premier lieu dû aux grosses difficultés de l'entreprise publique d'électricité Eskom, manque d'investissement, corruption. Mais comment cette crise énergétique affecte en particulier le Cap, Julien Migosi, et comment expliquer que cette ville n'ait pas pu trouver de solution locale pour la résoudre, elle qui se targue d'être une vitrine de l'Afrique du Sud qui marche et qui pourrait utiliser ses importantes recettes fiscales pour peut-être trouver des solutions à ce problème?
Bien, c'est justement l'une des stratégies politiques de la Democratic Alliance, donc le parti qui tient la ville du Cap et la province du Cap, que d'utiliser l'enjeu de l'électricité, des infrastructures d'électricité pour voilà se porter en opposition face au gouvernement central et à l'ANC. L'Afrique du Sud a une entreprise publique, parapublique, qui s'occupe de délivrer l'électricité, un peu comme on avait EDF en France. Et eh bien cette entreprise face à plusieurs vagues de corruption, à un manque d'investissement dans de nouvelles infrastructures, s'est progressivement effondrée à partir du début des années 2000 jusqu'à généraliser des coupures de courant dans tout le pays, tellement devenue structurelle qu'en fait les habitants étaient prévenus à l'avance d'une coupure de courant pendant une certaine plage. Et en fait ça cette politique de manque de subvention en énergie, elle a été assumée en rotation entre quartiers et la ville du Cap n'y a pas échappé. Et ça a été justement une occasion pour la municipalité de critiquer l'inaction, la corruption, l'inefficacité de cette entreprise nationale dirigée en lien avec l'African National Congress et d'essayer de proposer une politique énergétique alternative. Alors, bien évidemment, on est plus dans le champ du discours que de l'action, parce que la politique énergétique reste du domaine de l'État, mais ça peut se sanctionner à l'échelle individuelle, par exemple, en encourageant des logements à s'équiper en panneaux solaires, ou en proposant des subventions municipales pour que les entreprises, là aussi, rentrent dans une démarche d'équipement, et donc de déconnexion, d'indépendance vis-à-vis des infrastructures nationales. Donc en clair, la crise énergétique, elle a frappé la ville du Cap comme le reste, mais elle a été utilisée comme instrument de visibilité politique par la ville du Cap, donc pour proposer un contre-modèle, une opposition à cette économie énergétique centralisée et déficiente.
Et les panneaux solaires, alors, ça fonctionne? Est-ce que les injonctions ou suggestions de la municipalité du Cap à s'équiper en panneaux solaires, est-ce qu'elle a été suivie des faits?
Eh ben, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas pour la même manière. Et c'est là, en fait, que ces politiques énergétiques, en fait, elles se recoupent avec les inégalités sociales et raciales héritées du temps long. Parce que pour pouvoir s'équiper en panneaux solaires, il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir les moyens d'accéder à ces subventions. Et en fait, ce sont donc, paradoxalement, les populations les plus privilégiées et les entreprises les plus en capacité, voilà, de subvenir à ces coûts, qui, en fait, prennent le tournant de l'énergie verte en Afrique du Sud. Donc en fait, sous prétexte d'augmenter les capacités énergétiques du pays, finalement, on recrée des inégalités très fortes entre quartiers et entre maisons, entre ceux qui peuvent jouer le jeu de l'équipement et de la subvention, et les autres en fait qui doivent subir l'incapacité du gouvernement via son entreprise publique d'assurer un afflux énergétique constant.
Donc c'est pour ça que certains chercheurs parlent d'apartheid vert, ces énergies renouvelables. Énergie renouvelable qui bénéficie surtout aux groupes déjà favorisés. Et d'ailleurs, il faut souvent être propriétaire pour pouvoir s'équiper en panneaux solaires. Or, 8% de la population sud-africaine aujourd'hui détient 72% des terres. Alors là, on n'est pas dans un contexte urbain, mais j'imagine que la question se pose aussi quand il s'agit d'équiper un immeuble, une maison en panneaux solaires. Est-ce que l'Alliance démocratique utilise la moindre crise, en l'occurrence énergétique, mais d'autres, pour dire toujours quelle elle fait mieux, Julien Migosi, sur le train par exemple. On a entendu cette Alliance démocratique très souvent aussi dire que de toute façon ça ne pouvait pas être pire que ce que l'ANC au pouvoir, le Congrès national africain, faisait, et qu'elle avait la solution. Alors quelle solution a-t-elle pu mettre en place ?
Ben, comme vous le soulignez, la question des infrastructures, en fait, c'est un levier politique historique pour la Democratic Alliance pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, les infrastructures, c'est le symbole de l'échec de l'ANC. Le fait que les gens aient des difficultés à pouvoir utiliser le train, le fait que les gens n'aient pas accès à l'eau, le fait que les gens n'aient pas accès à l'électricité. Chaque discours sur cette faillite, en fait, sur ce rôle des infrastructures, pointe du doigt la trahison de l'ANC et donc la nécessité de repenser la gouvernance sud-africaine. Ensuite, la deuxième raison, cette entrée par les infrastructures, c'est que ça permet aussi à la ville du Cap de jouer sur ses représentations, que finalement, la politique, la gouvernance, elle doit être faite à l'échelle des municipalités et de la ville. Que ce sont les villes, en fait, qui sont les plus en mesure de répondre aux besoins de leur population résidente. Donc, en fait, là, ici, il y a une bataille entre une vision de l'État central et une vision des villes et de la province qui devrait être, voilà, qui serait l'échelon de fourniture des services publics. Et en fait, stratégiquement, ça permet à la Democratic Alliance de construire sa légitimité politique tout en jouant sur l'échelle politique où justement ils sont au pouvoir, ils sont en maîtrise. C'est pas pour autant que les résultats sont bien plus spectaculaires que le gouvernement central. Il y a récemment, notamment du fait de la présence d'un nouveau maire, des politiques assez fortes, de nouvelles constructions de stations de chemin de fer, d'équipements de nouvelles voies de bus, de réfection des infrastructures d'eau usée. Mais enfin, malgré ce discours où on pointe du doigt les échecs des infrastructures au niveau national, il est vrai que la ville du Cap a pendant très longtemps, alors même qu'elle était contrôlée par le DIE, délaissé les quartiers les plus pauvres, notamment en termes d'équipement public. Donc là, on est plus dans le domaine de la rhétorique plutôt que de l'action, même si, encore une fois, il y a une nouvelle génération politique actuellement dans la ville du Cap qui semble un peu plus consciente et encline à prendre cette question d'infrastructure à bras-le-corps.
Ce jeune maire de la ville du Cap, Jordyn Hill-Lewis, qui est par ailleurs très à l'aise dans sa communication, qui se met pas mal en scène sur les réseaux sociaux, qui insiste pas mal sur des mesures sociales et de redistribution, Chloé Buir, est-ce qu'il dénote au sein du parti ou est-ce qu'il incarne un tournant, que l'Alliance démocratique prend ce tournant dans toute l'Afrique du Sud ?
Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Là, on est au seuil des élections municipales qui vont avoir lieu donc cette année, mais on est aussi à deux ans d'une première expérience pour l'Alliance démocratique, c'est qu'elle fait maintenant partie du gouvernement national, qui est un gouvernement d'unité nationale, parce que l'ANC n'a pas obtenu de majorité en 2024. Et donc maintenant, ce jeu de dénoncer les échecs au niveau national, ça devient un peu à double tranchant pour la DIA, puisqu'ils sont censés faire partie aussi de ce gouvernement. Et on le voit dans ce leadership qui a toujours été le Cap, le maire du Cap, c'était la figure donc du parti. Et on voit que maintenant, il y a d'autres figures. Donc il y a les ministres nationaux qui font partie aussi de la DIA. Il y en a un encore qui a démissionné il y a 15 jours. Et donc, effectivement, je pense que Hill-Lewis, au niveau du Cap, il essaye de maintenir quelque chose, mais il est aussi maintenant, dépendant et prisonnier, quelque part, des stratégies au-delà du Cap. Donc, pendant longtemps, la DIE dirigeait le Cap et pouvait vraiment se baser sur cette expérience urbaine de cette métropole-là pour se faire valoir. Ensuite, ils ont gagné au niveau provincial. Donc il fallait défendre des politiques à d'autres échelles. Et maintenant, ils font partie aussi du gouvernement national. Et ce qu'ils ont en ligne de mire, c'est la ville de Johannesburg. Et la leader historique de la DIE qui a fait du Cap, la réputation du Cap, c'est Hélène Zille.
Oui, on en parlera dans le focus.
Qui avait même réussi à obtenir le titre de meilleure maire du monde en 2008. Des campagnes un peu étranges. On ne sait pas trop comment ce genre de titres sont décernés. son prochain agenda politique, c'est de gagner Johannesburg.
Oui, on en parlera dans le focus, Chloé Bure. En fait. Voilà, il y a un déplacement et aussi peut-être cette aura dont s'est servie l'Alliance démocratique pour dire que c'était vraiment un parti d'opposition à l'ANC qui peut-être est en train de perdre un petit peu en vigueur puisque les deux partis maintenant sont alliés au sein d'une grande coalition depuis les législatives du printemps 2024. Donc, vous le disiez à juste titre que ce parti peut moins jouer sur cette aura sur laquelle elle a joué d'être le parti d'opposition. Sur le maire du Cap, Julien Migosi, ce jeune maire Jordyn Hill-Lewis, on verra bien s'il prend ses responsabilités sur le logement, notamment la question du logement qui reste primordiale. Plus de 360 000 personnes sont sur liste d'attente pour un logement social au Cap. Vous vouliez en dire un mot ?
Ben juste pour dire que c'est un homme relativement jeune. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est arrivé dans le paysage politique post-apartheid. C'est pas quelqu'un qui a grandi sous l'apartheid, qui a construit sa légitimité politique par la lutte contre l'apartheid comme la génération précédente. Donc c'est un pur produit de l'Afrique du Sud des années 2000 et notamment du Parti Democratic Alliance qui a été créé lui aussi dans les années 2000. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a construit sa légitimité politique, voilà, qui a appris la politique dans le contexte politique actuel, et donc il en maîtrise les rouages. Et lui, vraiment, justement, pour en revenir à ce qu'on disait avant, c'est quelqu'un qui assume le fait que la politique sud-africaine doit d'abord être menée à l'échelle des villes. Son discours, c'est pas de dire il s'agit de faire du Cap une province indépendante, que la ville du Cap tourne le dos au destin du pays, mais au contraire, de montrer que c'est depuis la ville, depuis les politiques urbaines, que l'on peut faire en sorte d'améliorer la vie de tout un chacun. Et en fait, ça lui sert de tremplin politique, puisqu'il vient de la semaine dernière de se proposer comme candidat pour être à la tête nationale du parti, ce qui pourrait le mener peut-être à terme à tenter d'être candidat lui-même pour les présidentielles. Donc c'est vraiment quelqu'un qui utilise l'échelle urbaine pour jouer sur sa visibilité. Comme vous l'avez dit, il est assez présent sur les réseaux sociaux. Il a une stratégie de politique de terrain, de porte-à-porte, de déambulation, de live feed sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et en fait, entre sa maîtrise des réseaux sociaux et sa vision de la ville comme espace des possibles, en fait, il essaie de se construire une légitimité politique nationale.
Sauf que vous disiez, Julien Migosi, que l'Alliance démocratique n'est pas un parti indépendantiste. Mais il y en a des partis ou des formations politiques au Cap qui demandent l'indépendance. Mais il faut vraiment faire la distinction, ça n'est pas le cas de DA, de l'Alliance démocratique.
Ben non, justement, le DA, maintenant comme l'a très bien souligné Chloé, le DA est depuis 2024 un parti qui est dans un gouvernement d'union nationale. Donc auparavant, cette stratégie de systématiquement taper ou désigner l'opposition politique de l'ANC comme responsable de tous les maux, elle est aujourd'hui beaucoup plus délicate à manier. En parallèle, au Cap, il y a des partis d'extrême droite, en lien étroit avec la sphère d'extrême droite globale, notamment avec des figures autour de Donald Trump ou d'Elon Musk, voilà, qui n'arrêtent pas de chanter les louanges du Cap et d'utiliser la réussite relative de la ville du Cap comme un argument pour montrer qu'en fait, il faut en finir avec le modèle multiracial sud-africain et que le Cap devrait donc sortir de cette logique, proclamer son indépendance territoriale. Bon, en vérité, d'ailleurs, ces visions hallucinées et racialisées, il n'y a aucune impossibilité politique. La capitale économique du pays, c'est Johannesburg. Et tout le monde est conscient que pour que l'Afrique du Sud retrouve un peu le chemin d'une vie politique pacifiée et d'une croissance économique plus favorable, eh bien, il faut que la ville de Johannesburg fonctionne aussi. Et ça, le maire du Cap, il l'a bien compris. Il n'est pas en train d'essayer d'utiliser la ville du Cap de faire sécession, mais simplement de dire contre-modèle. De faire un contre-modèle en disant « Voyez ce qui se passe au Cap, voyez comme cela fonctionne chez nous, eh bien on pourrait faire exactement la même chose à l'échelle du pays. » Donc pas sécession, mais contre-modèle, contre-proposition.
S'appuyer sur ces résultats au Cap pour avancer au niveau national, avec aussi la mise en place quand même d'un pouvoir fort au niveau de la métropole du Cap, le Cap plus la province du Cap occidental. Chloé Buir, ça c'est le niveau de décentralisation reste fort en Afrique du Sud.
Il est à la fois fort et à la fois complexe parce qu'il y a vraiment, par exemple, sur l'agenda de la sécurité qui est énorme en Afrique du Sud. On sait que c'est un des pays avec des taux de violence interpersonnelle, d'homicide, etc. très très élevés. Donc c'est vraiment une préoccupation quotidienne pour tout le monde. Et on le voit, il y a évidemment des services de police nationaux, il y a des services de police municipaux, et puis au niveau provincial, il y a plein d'initiatives sur la sécurité. Et en fait, quand on redescend ça dans la vie quotidienne des gens à l'échelle du quartier, toutes ces différentes forces de police ou façons de s'organiser face au crime rentrent plutôt, pas forcément en contradiction, parce que tout le monde veut lutter contre le crime et sur l'agenda, ils sont à peu près d'accord, mais en termes de moyens et de comment s'y prendre. Donc on peut avoir à la fois des petits groupes d'habitants qui vont s'auto-organiser et organiser des marches de nuit dans les quartiers pour essayer de déloger les éventuels groupes qui pourraient rester de nuit. Il y a beaucoup de... Il y a tout un tissu de gangstérisme, je ne sais pas comment on dit ça en français.
On va dire gangstérisme. En tout cas, d'insécurité, pour le dire plus généralement.
Avec lié à des trafics de drogue, etc. Mais aussi juste qui inquiète, parce que c'est une présence inquiétante. Donc on va avoir ça au niveau micro-local, et puis il va y avoir les interventions de la police nationale, il va y avoir un programme spécial de la province, il va y avoir quelqu'un du niveau municipal qui va arriver avec un programme d'éducation. Et donc tout ça se mélange, en fait. Et donc, il y a aussi ce que le DA défend n'est pas toujours lisible, en fait, pour les habitants, et en particulier dans les townships dont on a parlé, comme cette espèce d'extérieur, mais où vivent la majorité de la population. Beaucoup de quartiers où c'est l'ANC qui dirige, en fait, au niveau local, puisqu'il y a des conseillers locaux. Donc voilà, il faut aussi ne pas complètement confondre les discours et les affichages d'un parti politique au niveau national, au niveau médiatique, et l'expérience quotidienne de là et du politique que peuvent en avoir les habitants, vraiment dans leur quotidien.
L'Alliance démocratique dans l'affichage, et qui donc essaye de miser sur ses bons résultats, ce qu'elle présente comme ses bons résultats au Cap pour bientôt gagner Johannesburg lors des prochaines élections municipales. On en parle juste après cette chanteuse sud-africaine, Hazana. La chanteuse sud-africaine Hazana et sa chanson Egoli. Egoli, c'est le nom zoulou pour Johannesburg, et ça signifie littéralement le lieu de l'or. À Johannesburg, où une ancienne maire de Cape Town, figure de la politique sud-africaine, a été missionnée par son parti, l'Alliance démocratique, pour briguer la mairie lors des prochaines élections. Elle s'appelle Hélène Zille.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Aujourd'hui, je m'adresse au peuple de Johannesburg qui, comme nous, refuse de renoncer à la promesse dorée de cette ville. Beaucoup d'entre vous me connaissent en tant qu'ancienne maire ou ancienne gouverneure de la province du Cap-Occidental, en tant que mère ou en tant que grand-mère. Aujourd'hui, je suis ici en tant que fille. Une fille de Johannesburg.
Hélène Thileux, 74 ans, ancienne maire du Cap et ancienne gouverneure du Cap Occidental, qui annonçait officiellement en septembre sa candidature à la mairie de Johannesburg pour le parti de l'Alliance démocratique. Elle avait choisi pour lancer sa campagne le township de Soweto, bastion du Congrès national africain, l'ANC. Bonjour Marianne Séverin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes experte sur l'Afrique du Sud au Centre d'études africaines de Sciences Po Bordeaux, les Afriques dans le monde, le LAM. Alors, est-ce qu'Hélène Thileux met en avant dans sa campagne son bilan de maire du Cap? Est-ce que ça compte?
Alors, ça peut compter, mais j'ai envie de dire que ça pose question aussi, parce qu'à Johannesburg, on pourrait se dire pourquoi forcément une femme blanche qui se présente, même si elle a eu ses succès dans la province du Cap, dans la ville du Cap, mais pourquoi spécialement une femme blanche pour ces municipales à Johannesburg? Est-ce que l'Alliance démocratique n'aurait pas pu prendre quelqu'un d'autre?
Mais disons que c'est
autre que Hélène Zillé.
C'est un drôle de personnage que cette Hélène Zillé, qui a été à la fois une militante anti-apartheid, donc elle est blanche et d'origine allemande, mais elle a été vraiment très militante contre l'apartheid, mais elle a aussi eu des sorties très ambiguës sur l'héritage colonial sud-africain. Comment comprendre ses prises de parole sur la question? Est-ce que l'apartheid est toujours en 2026 un sujet sur lequel les candidats et candidates aux élections municipales sont invités à se prononcer et où, donc, à vous entendre, la couleur de peau, par ailleurs, compte aussi encore, manifestement?
Alors, a priori, les politiques n'ont aucun intérêt à se baser sur ce qui s'est passé durant l'apartheid, mais en même temps, la réalité de l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a encore des traces de cette politique discriminante. Et en même temps, il faut reconnaître que l'Alliance démocratique, quand on regarde le profil des dirigeants de l'Alliance démocratique, il ne représente pas franchement la majorité sud-africaine, c'est-à-dire les Sud-Africains noirs. Ça a été un essai. La plupart sont partis. Et aujourd'hui, on se retrouve encore avec une Hélène Zillé. Je n'ai rien contre elle, mais elle ne représente pas forcément l'ensemble de la population sud-africaine.
Alors si on parle vraiment de son bilan politique, disons pratique, au Cap et très concret, est-ce que, par exemple, sur l'un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les habitants de Johannesburg, celui des coupures d'eau, a-t-elle des propositions concrètes à faire? Est-ce qu'elle a mis en place des choses au Cap qu'elle se propose de reproduire à Johannesburg? Enfin, très concrètement, qu'est-ce qu'elle propose?
Le problème, c'est qu'il n'y a, au Cap, il n'y a pas eu franchement de problème d'eau. À Johannesburg, c'est assez complexe. C'est pas la même situation géographique. Ce n'est pas la même, ce n'est pas le type même de population. Donc, elle essaye de proposer des choses à Johannesburg, mais enfin, a priori, le premier acteur qui devrait faire son travail, c'est le gouvernement national. Pour soutenir la localité de Johannesburg et finalement son maire n'a pas fait grand chose et la ministre non plus de l'eau ne fait pas grand chose. Donc on va voir ce que Hélène Zillé peut proposer, mais selon un journaliste sud-africain, finalement le problème de l'eau n'a pas besoin d'un magicien, il a plutôt besoin de gens compétents. Parce qu'en fait, il est là le problème de gens compétents, de fonctionnaires compétents et pas de fonctionnaires qui dépendent d'un parti politique comme c'est souvent le cas avec l'ANC.
Alors Marianne Séverin, Johannesburg a certes été très longtemps et très souvent dirigé par l'ANC depuis la fin de l'apartheid, mais la ville a aussi élu l'Alliance démocratique en 2016 avec un maire Herman Mashaba qui se représente d'ailleurs cette année. Est-ce qu'ils en appellent aux mêmes électeurs?
Il faut comprendre que cet ancien maire, finalement, il a créé son propre parti, si je me souviens bien. Et le problème maintenant auquel on va se confronter, ce n'est plus uniquement le problème de l'eau, mais il y a aussi le problème de la xénophobie à Johannesburg et en Afrique du Sud.
Parce que le parti qu'il a créé, Herman Mashaba, il a créé un parti en effet qui s'appelle Action SA en 2020, qui fait campagne contre l'immigration, qu'il associe à la criminalité. Il n'est pas le seul à le faire. On a consacré une émission aux mineurs, ceux qui travaillent dans les mines, les mineurs artisanaux, et qui sont dénoncés, y compris par l'ANC, comme étant des étrangers qui viennent à la fois prendre l'emploi des Sud-Africains et aussi créer de l'insécurité. Néanmoins, vous disiez que cette question, elle est primordiale à Johannesburg en particulier.
Elle est primordiale à Johannesburg et en règle générale, quand vous avez des crises xénophobes, c'est souvent à Johannesburg et dans la province du KwaZulu-Natal, au Natal. Donc, vous voyez bien que la configuration de Johannesburg n'est franchement pas la même que celle du Cap. Et vouloir appliquer sa méthode, qui a été une réussite, si on peut dire, au niveau du Cap...
Selon ses critères à lui.
Je parle d'Hélène Zille, ne va peut-être pas fonctionner parfaitement à Johannesburg. Il est le concurrent direct de Hélène Zille. Et pour la petite histoire, il s'avère que plus de 50 membres du parti Action South Africa ont quitté ce parti pour rejoindre Hélène Zille. Donc vous avez des transferts de leaders de l'opposition qui vont aller soutenir Hélène Zille. Et ça complique aussi les choses à ce niveau-là.
Et est-ce que il est possible que d'anciens électeurs de l'ANC votent aussi aujourd'hui pour l'Alliance démocratique? Est-ce qu'Hélène Zille peut compter sur ces votes-là? Est-ce que les frontières sont plus poreuses qu'on ne peut l'imaginer?
Peut-être. Parmi la jeune génération, je ne je ne peux pas le dire et je ne peux pas le confirmer. Simplement, j'ai fait une remarque dès le début. Elle ne représente pas le visage de l'ensemble de la population sud-africaine. On a peut-être du mal à l'entendre, mais c'est la réalité en Afrique du Sud. On n'arrive pas encore à se dégager de cette vision d'identité raciale pour avoir des partis qui représentent l'ensemble de la population sud-africaine. Alors, peut-être qu'ils vont s'abstenir, parce qu'on parle toujours d'élections, mais en fait, peut-être que ces populations ne vont pas aller voter, en se disant que finalement, les partis politiques sont tous les mêmes.
Merci Marianne Sévrin. Alors les prochaines élections municipales auront lieu à la fin de l'année. La date n'a pas été encore confirmée, mais ce sera entre novembre, décembre, janvier. Enfin, on sait pas exactement encore. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheuse au Centre d'études africaines de Sciences Po Bordeaux, les Afriques dans le monde. Julien Migosi, est-ce que les recettes entre guillemets politiques qui ont fonctionné pour le Cap peuvent fonctionner à Johannesburg? Vous souhaitiez nous parler vous aussi d'Hélène Zille?
Ça me paraît difficile, tant les deux villes sont insérées dans des contextes économiques, culturels, touristiques totalement différents. Mais pour en revenir à Hélène Zille, il me semble que ce qui fait sa force, en fait, c'est la continuité de sa présence dans la vie politique sud-africaine. C'est quelqu'un qui a été élu maire du Cap pendant quelques années, puis qui a été directrice de la province du Cap pendant 10 ans, qui a été directrice du parti. Et en fait, elle arrive dans une ville de Johannesburg qui est minée par l'instabilité politique. Depuis 2019, il y a eu plus de 5 maires différents, ce qui rend en fait toute possibilité, ce qui fragilise toute possibilité de planification urbaine. Si vous voulez améliorer l'eau, l'électricité, les transports, eh bien il faut une vision d'aménagement sur le long terme. Or la municipalité de Johannesburg est devenue tellement chaotique qu'il est difficile de faire des plans d'aménagement, alors même que d'un autre côté, la ville du Cap, comme le DIE a construit son hégémonie politique à l'échelle provinciale et municipale, eh bien en fait, quelqu'un comme Zille ou quelqu'un comme le nouveau maire, il bénéficie de cette continuité d'être aux commandes d'une ville ou d'une province. Donc en fait, c'est là que Zille, en fait, elle n'a pas besoin de dire grand-chose dans son programme politique. Elle peut dire, en fait, c'est moi, une force politique présente, face à une situation chaotique et une ville en déclin. Et c'est là, en fait, que se joue sa figure, et c'est pour ça qu'elle se présente au début de son discours comme fille de Johannesburg. Elle reviendrait, amener de la sérénité, de la continuité par son expérience de la ville du Cap. Mais c'est principalement là que se joue sa légitimité politique, celle d'une figure sur le temps long.
Et Johannesburg, de toute façon, n'aura jamais les mêmes atouts du Cap, n'a pas ni la grande baie, ne peut pas autant attirer les touristes, mais reste la place financière du pays. Et donc le prochain ou la prochaine maire devra composer avec les atouts et les difficultés de cette ville. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Julien Migosi, maître de conférence à l'université de Cambridge. Et merci Chloé Buir, chercheuse de recherche au CNRS au laboratoire LAM et chercheuse associée à l'Institut français d'Afrique du Sud. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Citadins citoyens au Cap, justice et espace après l'apartheid, paru aux presses universitaires de Paris-Nanterre. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Et cette semaine, c'est avec vous, Mathilde Romagnan. Pas d'apaisement diplomatique en vue entre les États-Unis et l'Espagne.
Non, malgré ce qu'a voulu faire croire la Maison-Blanche hier soir, les relations sont toujours tendues entre les deux pays, et ce depuis mardi, lorsque le président américain Donald Trump a menacé l'Espagne de sanctions commerciales si elle refusait à l'aviation américaine l'accès à ses bases militaires en Andalousie dans le cadre de l'opération Epic Fury en Iran. Hier, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a dit non à la guerre et a promis que son pays ne serait pas complice des attaques américano-israéliennes contre l'Iran. Il a reçu le soutien de plusieurs chefs d'État européens, dont le président français Emmanuel Macron. Et surprise, hier soir, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a assuré que l'Espagne avait changé d'avis.
I think they heard the president's message yesterday.
Je pense qu'ils ont entendu haut et fort le message du président hier, dit-elle, et d'après ce que j'ai compris au cours des dernières heures, ils ont accepté de coopérer avec l'armée américaine. Je sais donc que l'armée américaine coordonne ses actions avec ses homologues espagnols, mais le président attend de tous nos alliés européens qu'ils coopèrent à cette mission, attendue depuis longtemps, afin d'écraser le régime iranien qui, je le répète, menace non seulement l'Amérique, mais aussi nos alliés européens. Une déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche que le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez, a démenti dans la foulée dans une interview accordée à la radio espagnole Cadena Ser. Je démens catégoriquement, dit-il, la position du gouvernement espagnol sur la guerre au Moyen-Orient, les bombardements en Iran et concernant l'utilisation de nos bases n'a pas changé d'un iota. Je démens catégoriquement et sincèrement, je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi cela peut faire référence ni d'où cela peut venir. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser clairement à tous les Espagnols que la position du gouvernement sur l'utilisation des bases pour la guerre au Moyen-Orient et les bombardements en Iran n'a absolument pas changé.
En Iran no ha cambiado en absoluto.
Le quotidien espagnol El País s'interroge sur ces déclarations contradictoires et sur ses conséquences imprévisibles sur l'Espagne. Comme El Mundo, El País soupçonne le Premier ministre socialiste d'un positionnement électoraliste et opportuniste et d'utiliser l'animosité qui existe à l'égard de Trump dans la société espagnole pour gagner en popularité, je les cite. Précisons que l'Espagne n'est pas le seul pays européen à avoir dit non à la guerre en Iran. La Norvège a déclaré que les frappes américano-israéliennes n'étaient pas conformes au droit international. L'Irlande, elle, estime que les conflits doivent être résolus par la diplomatie et la négociation.
La Russie accuse l'Ukraine d'avoir détruit un de ses navires en Méditerranée.
Un méthanier, une embarcation transportant du gaz naturel liquéfié, a coulé entre la Libye et Malte. L'Arctic Metagaz, c'est son nom, a été, selon Moscou, attaqué avant-hier par des drones ukrainiens lancés depuis les côtes libyennes. Le site indépendant russe d'investigation The Insider a confirmé les dommages sur le navire russe grâce à des photos aériennes où l'on voit la coque du bateau trouée. Le navire était chargé et en provenance du port russe de Mourmansk, un acte qualifié de terroriste par le président russe Vladimir Poutine. L'Ukraine, elle, n'a pas encore réagi. L'équipage, composé de 30 personnes, est sain et sauf. Il a été pris en charge par les autorités libyennes. L'incident s'est déroulé en fait dans les eaux territoriales libyennes, mais à la limite de la zone maltaise. Des secours maritimes de Malte sont donc intervenus et cela a déclenché une polémique dans le pays, rapporte le quotidien Malta Independent. Le parti travailliste au pouvoir a reproché à l'opposition nationaliste d'avoir diffusé de fausses informations sur l'intervention en maltaise. Selon le leader de l'opposition Alex Borg, le navire russe ne se trouvait pas dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte. Mais c'était bien le cas pourtant, comme le confirme le Times of Malta qui a eu accès aux messages de détresse envoyés par l'Arctic Metagaz. Le ministre maltais de l'Intérieur a accusé l'opposition de mettre en péril la neutralité de Malte. Car entre Malte et la Sicile, il y a une route commerciale très empruntée en Méditerranée. Mais commerce et défense pourront-ils cohabiter dans cette mer où la défense européenne s'organise face à la situation en Iran ? Le porte-avions français Charles de Gaulle y sera déployé dans les prochains jours et le Royaume-Uni y envoie son navire lanceur de missiles HMS Dragon dès la semaine prochaine pour sécuriser les bases britanniques de Chypre. Mais je vous l'accorde, entre Chypre et Malte, il y a environ 1600 km de distance, pas encore de quoi inquiéter la Valette. Si vous avez une question sur cette chronique ou envie d'approfondir un sujet évoqué à l'antenne, vous pouvez nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous y répondrons dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Mathilde Romagnan. Demain, je vous retrouverai dans Culture Monde avant le retour de Mélanie Chalandon. Vendredi prochain, nous parlerons du Liban à nouveau sous le feu israélien avec le journaliste Anthony Samrani depuis Beyrouth et Agnès Levallois. Table ronde co-animée avec notre partenaire du Monde Marc Semo et précédée d'un retour d'Afghanistan. Solène Chalvon-Fioriti a sillonné le pays des talibans et filmé aussi parfois les petits instants de résistance dans les marges qui existent. Elle nous en parlera dans Culture Monde. Dans un instant, les midis de culture.